J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
S'il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Le cinéma à l'honneur comme chaque semaine sur Radio Grand Air. On est évidemment invité dans les lieux du cinéma La Brèche. C'est avec plaisir que nous sommes accueillis par le maître des lieux. C'est pas le maître du temps.
Je ne suis pas le seul.
Il n'est pas le seul. C'est vrai, mais c'est souvent lui qu'on voit ici au cinéma La Brèche depuis plus de 20 ans, hein, on rappelle. Hein, 30. Hein, ben, voilà, on rajoute une dizaine. Pascal. Bonjour
oui,
Pascal.
Bon, bonjour. Non, pas 20 ans, non, 30.
Voilà, je voulais te rajouter
30,
un petit peu.
Je crois que ça fera 30 cette année. Vu que j'ai dû rentrer en... Ouais, je suis rentré en juin 1994.
Un dinosaure du cinéma.
Ça fait bizarre de dire 1900, et c'était le monde d'avant.
C'est ça. Et bien voilà, on se retrouve pour une nouvelle émission d'Entracte.
Et bien bonjour Christophe, oui, mais bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 92... Entracte.
La prochaine fois, je te mettrai un petit peu d'écho.
C'est vrai, si tu veux.
Voilà, 92e édition d'Entracte, l'émission qui aime regarder les auditeurs et aussi l'émission qui adore le cinéma et aussi voir les films à l'affiche de La Brèche cette semaine avec évidemment un petit retour de ce moment d'accueil que vous avez réalisé il y a quelques jours sur le cinéma La Brèche, Maxime Gasteuil hein, qui a fait une belle tournée
oui,
qui est venu présenter son nouveau bébé.
Absolument, oui, justement, je voulais revenir dessus là. Effectivement, bon, toi tu étais absent parce que tu ne pouvais pas venir.
C'est bien dommage.
Mais voilà, on a rencontré donc Maxime Gasteuil, qui est quelqu'un de fort sympathique.
Ouais.
On a rencontré aussi le réalisateur, plus la production, enfin la distribution, pardon. Et voilà, on a passé un super moment. Bon, c'est fugace à chaque fois, tu sais. Et là, il a fait la tournée toute l'après-midi sur les Bournes.
Eh oui.
Donc le grand écran, Saint-André-Cubzac, Sainte-Lalie.
C'est une journée marathon.
Oui, cinq fois. Donc, ce qui est bien, on l'a eu en première position. C'est-à-dire, il a commencé sa tournée. Ben oui, mais tu sais, mais t'imagines, au bout de la quatrième fois, répéter peut-être un petit peu la même chose. Je sais pas.
Ouais, tu peux être un peu claqué.
C'est peut-être un peu moins de peps. Tandis que là, il était dispo. C'était chouette. On s'est bien marré. La salle s'est bien marrée. Moi, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé, mine de rien. Parce qu'apparemment la direction ils avaient l'air de s'inquiéter en disant oui mais il n'y aura pas assez de monde et tout, moi je leur disais à chaque fois mais non mais la salle sera pleine, il n'y a aucune raison.
Et photo à l'appui hein.
Et photo à l'appui, ça c'est sûr. Mais voilà, moi j'en étais sûr, quand une personne qui se déplace ici pour parler un petit peu de son film, parler un petit peu de sa carrière d'acteur, parce qu'il débute, hein, Maxime Gasteuil, mine de rien, et à la base c'est un humoriste, hein. Moi j'ai fait deux, trois recherches dessus.
Oui, effectivement.
Voilà, je l'ai vu au Marrakech du Rire, je l'ai vu un peu à droite à gauche.
J'étais assez surpris, il est relativement suivi, il a son fan club. Hein,
ah oui, absolument. Et puis il est de la région.
Un peu, c'est
il
un
est de la région, oui, oui. Donc du coup, j'ai refusé du monde de Saint-Émilion, hein, qui étaient des amis de ses parents, qui venaient là un petit peu à l'arrache, sans avoir compris qu'il fallait vraiment réserver sa place.
Ils ont sous-estimé.
Ouais, ils ont sous-estimé
la puissance de La Brèche.
Surtout la capacité d'accueil. Voilà, ouais. On a rempli la salle. Merci à tous ceux et à toutes qui avaient participé donc à cette super projection. Et voilà, puis merci à Maxime Gasteuil d'être déjà venu ici. Alors lui, il connaissait un petit peu Sainte-Foy, il nous a parlé un petit peu de sa jeunesse et tout.
D'accord.
Quand on était au bas, il venait ici avec ses amis des fois. Et voilà, c'était fugace, comme je dis, mais fort instructif et fort sympathique. Donc à refaire. C'est ce que j'ai écrit au distributeur. Si vous en avez d'autres, venez.
Un replay, ça serait bien de refaire un replay.
Voilà, ouais. Mais c'est bien, parce que c'est intéressant aussi, ce genre de phénomène, c'est créer l'événement. Alors, l'approche, on ne l'a pas souvent fait. C'est souvent l'apanage des grands cinémas.
Alors, moi, je me souviens d'un de mes premiers reportages que j'avais réalisé ici à La Brèche. J'étais tout jeune, hein, j'étais un petit peu tremblant, parce que j'avais rencontré Roger Hanin pour Train d'Enfer, qui était venu à La Brèche. Oui. C'était en très loin.
C'était il y a longtemps. Hein.
C'était les années 80. Fin 80, mais je ne sais plus. Il était venu en personne, à La Brèche, ici même. Ouais. C'était le nouveau cinéma ici, donc ça devrait être les tout débuts du cinéma La Brèche, le nouveau cinéma La Brèche.
Je crois qu'il a commencé en
84 ou 80.
Ouais, fin 80 par là, je crois. 84, 85, 86 par là.
C'est à peu près ça.
Ouais. Et ben voilà, mais c'est important aussi de créer l'événement. Hein. Ça permet aux gens aussi de découvrir les salles. Et combien de gens m'ont demandé où était la salle numéro 2. Donc voilà, moi je sais que.
Alors, bah, c'est écrit en gros.
Ouais, mais enfin, tu sais, quand t'es dans le hall, tu sais pas trop où ça se trouve. Quoi. Et donc voilà, donc, moi je pars du principe où les gens apprécient. Ce sont les clients de demain aussi. Hein. Faut pas oublier. Hein.
Absolument.
Qui découvrent les salles, qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma.
Fait connaître un petit peu notre territoire. Hein, c'est bien.
Absolument. Et donc voilà, donc on était très très contents, donc à toute l'équipe de La Brèche et d'Artech, d'avoir réalisé un petit peu cette avant-première. Il faut savoir que 14 jours pour aller mieux ne sortira que le 6 mars.
Oui, c'est ça, au mois de mars. Ouais.
Et les gens apparemment ressortent relativement ravis du film, ils se sont bien marrés et c'était le but de cette comédie.
Très bien. Et bien sûr, pour d'autres rendez-vous, et on va tout de suite regarder le sommaire de cette émission, Pascal.
Alors cette semaine, j'ai sélectionné 6 films. On va parler du film d'animation de Pablo Berger, donc Mon ami robot. On va parler aussi, ça c'est un autre film pour les petits, enfin je veux dire même pour ce grand public, hein, le dernier film de Gilles Mestre, Le dernier jaguar.
D'accord, non, rien à voir avec le jaguar.
Rien à voir avec le jaguar. Voilà, on va parler aussi du tournage aussi qui n'a pas été simple. Parce que moi, au début, je pensais qu'il tournait avec des images de synthèse et tout.
Avec un vrai jaguar.
On avait deux. On avait deux, en fait.
Ah bon, d'accord.
On va parler aussi du film que nous aurons en sortie nationale, le dernier film d'Yvan Attal, Un coup de dé. Ainsi que de la dernière création de Martin Provost, donc Bonnard, Pierre et Marthe. On parlera aussi du film alors, c'est pas un film d'horreur. Un film d'épouvante, pour tous ceux qui sont un petit peu arachnophobes.
Ah, les araignées.
Le dernier film de Sébastien
Ah oui, j'ai vu des extraits,
Vermine.
Oui, j'ai vu des extraits, c'est...
Voilà, un film d'épouvante
français.
En fait,
tu sors de la séance de cinéma, tu te grattes...
Ouais, tu fais le ménage chez toi.
Ouais, bah, tu fais
l'étoile d'araignée
toi,
déjà.
Tu te grattes.
Tu commences par faire l'étoile d'araignée. Alors c'est sympa une araignée, ça m'a jamais fait peur. Hein.
Bah, c'est Spider-Man chez toi, c'est bien.
Ouais, je sais que ça terrorise toute ma maisonnée, mais bon, non pas moi. Et pour finir, on parlera du dernier film de Wang Bing. Alors c'est loin d'être un court-métrage, hein. Il s'appelle Jeunesse, le printemps. Alors j'imagine qu'il va décliner ça sur toutes les saisons. Hein. Un film qui va faire 3h35. Voilà, pour ceux qui sont patients.
Patients et qui ne sont pas soumis au problème de l'endormissement.
Voilà, alors c'est un documentaire, hein, Jeunesse. C'est pas un film, pardon. C'est un documentaire, oui, sur la jeunesse chinoise.
Bon.
La jeunesse laborieuse, celle qui travaille dur, 20 heures par jour.
Ça existe.
Tu vois, voilà.
Ah
tu
ouais,
vois.
C'est... Tout à fait.
Et dans le cadre de la sortie, donc Un coup de dé, j'ai choisi Yvan Attal.
Jeune acteur.
Acteur, auteur, scénariste, réalisateur. Ouais. Voilà, il fait un peu de tout, hein. Il passe derrière la caméra, devant. C'est assez mouvementé de ce côté-là. Et donc voilà, c'est un personnage fort intéressant.
Et voilà, un joli programme pour cette 92e édition d'Entracte avec toi, Pascal, depuis La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande. Alors on va commencer pour Mon ami robot.
Mon ami robot, donc c'est un film d'animation, une comédie, hein, donc franco-espagnole d'1h42, donc de Pablo Berger. Alors ce film a reçu un prix, c'est le prix Contrechamp au Festival du film d'animation d'Annecy. Donc déjà, il a été primé. À savoir que pendant cette semaine cinématographique à La Brèche, à 16h15, il y aura un atelier, donc le mercredi 24, avec Mon ami robot et surtout ma collègue de Artec, hein, qui va faire des animations régulièrement. Hein. Tous les mercredis, elle est là, hein, pour animer des
ateliers. Oui, c'est important de le préciser.
Ouais, ouais. Le dernier, c'était avec Ivan Zarevich, donc le film d'animation de Michel Oslo. Là, ils ont construit des silhouettes pour faire des ombres chinoises.
Ah, très bien, oui, c'est vrai.
Je trouve ça vachement chouette.
Ouais.
Donc il y aura, ça sera un ciné discussion là par contre avec les jeunes, hein, avec un goûter offert dans le hall dès 16h. Ça sera avant la projection du film d'animation. Voilà.
Très bien, mais écoute, donc, c'est noté.
Cette petite intervention.
Parfait pour ces rencontres et ces initiatives à la Brèche.
Alors c'est l'histoire de Dog qui vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, ils décident de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde. Par une nuit d'été, Dog, avec grande tristesse, est obligé d'abandonner Robot sur la plage. Se reverront-ils un jour? Ça, c'est la question. Alors qu'avec mon ami Robot, donc Pablo Berger réalise son premier film animé. Il ne s'agit toutefois pas d'un souhait remontant à ses débuts, même si c'est un genre qu'il adore. Et comme il nous dit, j'ai consommé beaucoup de cartoons dans ma jeunesse. Les Merry Melodies, Félix le Chat, Popeye, Betty Boop, effectivement, c'était les premiers là.
On est un petit peu loin.
Ouais, et les productions d'Anna Barbera, pareil, hein, c'est en plein, ouais. Plein années 70. Hein. La maison où je vivais côtoyait un cinéma où passaient les Disney et j'entendais le son jusque dans ma chambre. C'est fort ça quand même. Ah. Comme quoi c'était bien sonorisé. Hein. Le premier que j'ai vu était Blanche-Neige et les Sept Nains, qui allait m'inspirer bien plus tard pour Blancanieves. Mais je me souviens surtout de deux séries japonaises, d'Isao Takahata, Heidi.
Heidi.
Eh oui. Faut savoir que c'était japonais,
la
Heidi.
La montagnarde. Hein. Ah, oui, oui, ah bon, oui. C'est japonais, ça?
Ben oui.
D'accord. Non.
Oui, d'Isao Takahata.
Ouais. Tu sais qu'ils ont fait un film, hein?
Ils ont fait des films.
Ouais.
Ils en ont fait plusieurs.
Par contre, c'était des films qui n'étaient pas japonais. Hein.
Non, cela n'était pas japonais, non, non.
C'est bien du terroir.
Et oui, donc Heidi, donc, sur laquelle avaient débuté Miyazaki et Marco.
Mmh, je regardais, moi.
Elle m'avait marqué parce qu'elle s'élevait au-dessus du simple film d'action et de divertissement. Elle jouait sur l'émotion et c'est ce que j'ai voulu reproduire dans Mon ami robot. Et on oublie aussi dans la famille Candy.
Ah oui, Candy, au pays de Candy.
Candy Neige, oui.
Ah, c'est bien ça.
Pareil, japonais. Hein.
Ah oui, c'est vrai que les japonais.
Mais il est cartonné. Hein.
L'année 70 et 80.
Tu peux mettre. Je pense que Capitaine Flamme en faisait partie.
Goldorak
en faisait partie. Ouais. On va dire Albator aussi, il me semble aussi. Voilà, ouais. C'est des grosses séries. Hein.
Alors c'était marrant parce que c'est vrai que quand on voit les personnages, ils sont pas typés, les personnages.
Non, ils sont pas japonisants du tout.
Ah ben oui, c'est ça qui trompe un peu.
Ben
oui, on pourrait se dire, tiens.
Mais souvent, le manga japonais, je dis qu'il n'y a jamais de japonais, c'est pas vrai, mais. Mais c'est vrai que c'est épuré de ce côté-là, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que et au niveau des yeux, par contre, ils ont fait un travail formidable parce que les yeux sont gigantesques.
Ah oui, c'est vrai.
Regarde les yeux de Candy. Mm-hmm. Elle a pas les yeux bridés, t'as vu. Et c'est tout le contraire, en fait. Elle a des yeux immenses. Mais c'est vrai que ça joue sur l'émotion, comme il disait. Hein. Ouais. Ça joue énormément sur l'émotion. Donc l'émotion passe par les yeux. Donc Pablo Berger collectionne des livres sans parole. Lorsqu'il préparait Blancanieves, il est tombé amoureux d'une bande dessinée américaine de Sarah Varon, Robot Dreams. Le thème, l'importance et la fragilité de l'amitié le touchaient. Tout comme la fin et l'idée de raconter cette histoire avec des animaux. Le metteur en scène poursuit. Je ne pouvais que passer à l'animation. J'aime le risque. J'ai depuis Blancanieves des producteurs qui me suivent et même me poussent. Alors on s'est lancé. De plus, ce n'était pas si éloigné de l'univers de mes films précédents. L'absence du dialogue, le fait de devoir tout faire, passer par les images. Torremolino 73 et Abracadabra sont parlants, mais on y trouve des minutes entières sans dialogue. J'aime aussi les effets montagnes russes dans une histoire où... Et il y en avait. J'ai aussi vu dans ce projet l'occasion d'une déclaration d'amour à New York où j'ai vécu dans les années 90 et où j'ai rencontré ma femme qui est devenue ma plus proche collaboratrice. Donc dans la bande dessinée, New York est une toile de fond. Pablo Berger a voulu en faire un personnage à part entière, comme il l'explique. C'est une des leçons que j'ai retenues des films du studio Ghibli. Des personnages aux traits simples mais sur fond de décor très détaillé. Mon ami robot est, pour ma femme et moi, un film d'époque. On essayait toujours de trouver une réalité qu'on avait vécue et dont on est nostalgique. C'est pourquoi on y voit, bien sûr, les Twin Towers.
Ah, très bien.
Donc le film fourmille de références dont une dès le début, l'affiche du film de Pierre Hété, Yo-Yo. Pablo Berger précise, ça a été difficile de trouver quel poster on allait placer dans l'appartement de Dog, qui apparaît beaucoup dans le film. Je voulais une affiche de cinéma pour montrer que Dog est cinéphile, collectionne des disques, voit des films. J'ai pensé tout de suite à un film muet, même si Yo-Yo n'est pas entièrement muet. Mais c'est aussi un film écrit avec des images. Pierre Hété renvoie aussi à Jacques Tati, et cette affiche est magnifique, ce sourire graphique qui contraste si bien avec la tristesse de Dog. On était tous convaincus dès le début du processus de recherche. Avant de commencer la production, on a réalisé un teaser de 2 minutes où figurait déjà cette affiche. Donc voilà, donc un film d'animation inspiré par le cinéma. c'est très conceptuel tout ça.
C'est vrai. Alors tu sais qu'il y avait aussi un autre personnage qui tournait, alors je crois que c'était espagnol, La Linea.
Tu sais, c'était Alors, ce... oui, bien sûr, oui,
c'était,
oui,
c'était ce personnage où on,
oui, oui.
on voyait oui. une main
qui dessinait
un personnage, et ouais. des fois il enlevait toujours un morceau.
Exact.
Et c'était espagnol.
C'était espagnol et oui, alors c'était à la limite du muet, hein, parce qu'on voilà, il faisait beaucoup de bruit et on comprenait jamais ce qu'il disait, mais par contre on ressentait ce que
il faisait. Ouais. Ouais,
Et de temps en temps, oui, on va envoyer apparaître la main du créateur.
C'est ça.
Avec sa craie.
Exactement.
Il crée, oui, il crée le personnage. Et des fois, il énervait et tout. Il avait l'interaction avec son personnage. C'était quand même grandiose.
Ah oui, surtout pour la réalisation à l'époque.
Sans couleur. Je me demande si c'était pas de l'image par image.
Alors, oui, alors c'était au départ, je crois que c'était en noir et blanc, mais après, c'est passé en couleur, non?
C'était peut-être
toujours en couleur. Enfin, je ne sais plus, La Linea, ouais. Voilà, bon, mais c'était un petit hommage à ces productions espagnoles aussi.
C'était vraiment extra, quoi. Mais c'était dans Récré 2.
Exactement.
Voilà, qui était une espèce
Nous
de creuset,
étions devant l'écran.
Oui, oui, un creuset de plein de créations. Et,
c'était après Heidi voilà, ou avant Heidi, je ne sais plus.
Exactement, ouais. Et c'était vraiment très chouette, quoi.
Mon ami Robot, à voir cette semaine pour les familles et puis les plus jeunes. En tout cas, vous avez passé un excellent moment. Le dernier Jaguar. Alors, le dernier Jaguar, on en parlait il y a quelques instants. C'est là aussi, ça va être un moment très, très sympa, voilà, familial.
Oui, c'est un moment familial, c'est un film d'aventure famille. Donc, Le dernier Jaguar, un film français d'1h40 de Gilles Mestre.
C'est français, ouais, donc.
Alors, Gilles Mestre a déjà tourné avec des animaux. En 2018, il a tourné Mia et le lion blanc avec Mélanie Laurent et Dania De Villiers. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Emily Beth Richards, Lenny Lumi Polak, Wayne Charles Baker, Paul Green, Kelly Hope Taylor, Lucrezia Pini et Eram Camacho. Alors, c'est l'histoire d'Autumne qui grandit dans la forêt amazonienne aux côtés de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu'elle a recueilli. Mais l'année de ses 6 ans, un drame familial contraint Autumne et son père à retourner à New York. 8 années passent et Autumne devient adolescente et n'a jamais oublié son ami Jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumne décide de retourner dans la jungle pour la sauver. Alors toute une histoire, évidemment. Donc, Donc Le dernier Jaguar est indirectement lié à Mia et le lion blanc et son succès un peu partout dans le monde. Donc Gilles Mestre confie. Les spectateurs nous demandaient une suite. C'était inenvisageable. La relation entre la jeune fille et le lion s'était arrêtée avant la fin du tournage et on ne pouvait pas la reprendre. Un Mia et le Lion Blanc 2 étaient donc exclus. Et ça m'a fait réfléchir à une autre idée. Utiliser le même attelage pour mettre en lumière cette fois la destruction de la forêt amazonienne et, le très lucratif et méconnu trafic d'animaux. Un film où cette cause serait portée par une autre relation hors norme, celle entre une enfant et un jaguar. Le prédateur mythique de la forêt amazonienne, le jaguar très méconnu que l'on voit rarement dans les films, et une toute jeune fille. Et comme pour Mia, on devrait d'abord réussir à créer une véritable relation entre eux. C'est ainsi qu'est né Le dernier Jaguar. Donc le tournage s'est déroulé en janvier 2022, puis de septembre à début décembre, donc toujours en 2022, à Playa del Carmen au Mexique et à Montréal au Canada. Donc avec Le dernier Jaguar, Gilles Mestre évoque la destruction de la forêt amazonienne et le trafic d'animaux. Deux phénomènes qui ne datent malheureusement pas d'hier, comme il l'explique et comme il nous dit, la déforestation est gigantesque. Incontrôlable, et c'est vrai, on le voit en vue satellite,
c'est affligeant,
c'est affolant.
Hein. Ouais.
Et le trafic des animaux est l'un des plus importants au monde. Nos projets partent souvent d'un message qu'on souhaite faire passer. Le film dit que nous tirons une balle dans le pied. Mia et le lion blanc révélaient l'horreur de la chasse au lion. Le loup et le lion dénonçaient l'utilisation des animaux pour le divertissement comme le cirque. Dans Le dernier Jaguar, nous traitons du plus gros problème que l'humanité affronte aujourd'hui, mais la manière, la comédie, l'aventure parlera autant à un enfant français qu'à un enfant colombien, autant à un enfant chinois qu'à un enfant marocain. Le film est amené à voyager. Nous cherchons à ce que notre narration soit universelle et internationale. Et oui, il faut quand même porter quand même le message. Donc le tournage il n'a pas été simple, mine de rien. Donc... Gilles de Mestre donc, explique pourquoi il a choisi Lumi Polak, donc, qui est l'actrice, pour incarner l'héroïne du dernier Jaguar. Et il nous explique « Parmi tous les enfants qui passent des auditions, je choisis plusieurs petites filles qui ont une personnalité et qui me semblent être bonnes actrices. Ensuite, il faut les tester avec de vrais animaux pour voir si elles ont peur et choisir celles qui paraissent les plus à l'aise. Loumi est sorti du lot grâce à son naturel, sa volonté et sa capacité à aller vers l'animal. Un dernier facteur essentiel rentre en ligne de compte pour le casting. Les parents.
Ah bah oui, il faut une autorisation aussi.
Il faut des parents capables d'assumer l'aventure.
Eh ben oui.
Leur enfant allait tous les jours pendant de longs mois passer du temps avec un jaguar. Deux en l'occurrence, qui lui sauterait dessus, qui deviendrait de plus en plus gros, de plus en plus fort. Le jaguar est l'animal le plus incontrôlable qui existe. J'espère qu'il n'a pas dit ça aux parents. Hein. C'est un prédateur solitaire et puissant qui, à l'état sauvage, qui, à l'état sauvage, n'écoute pas l'humain. Et là, écoute bien ça. Il dit, je rappelle qu'un jaguar est capable de tuer un crocodile de 4 mètres dans l'eau et en quelques secondes. Je ne dis pas une petite fille.
Ça ne donne pas trop envie, oui.
Il faut que les parents aient confiance, qu'ils soient ouverts et aient eux aussi une capacité d'apprentissage. Ces deux Loumi étaient très motivés. Heureusement. Donc le film a été tourné donc avec deux jaguars qui ont grandi ensemble. Donc le bébé jaguar dès la première scène et j'aime la doublure. Au départ, Gilles de Maistre pensait tourner essentiellement avec elle. Mais l'autre Hope s'est avérée beaucoup plus à l'aise devant la caméra. J'aime, elle, est devenue dangereuse en grandissant. Et cela met chaud les barons. Le cinéaste se rappelle. Un an avant le tournage, nous avons démarré l'imprégnation avec Eram qui incarne Autumn petite. Elle a pu jouer avec Hope et J'aime jusqu'à l'âge de 4 mois. Ensuite, les jaguars ont grandi et c'est devenu risqué pour Eram, alors on a arrêté. Et oui, c'est une bonne idée. On a ainsi mis en boîte toutes les premières images. Pendant ce temps-là, Loumi s'imprégnait aussi avec les jaguars. Elle jouait avec eux, mais sans qu'on la filme. Ça a duré un an. T'imagines la préparation ? Ah oui, oui, oui. Puis le tournage de toute la partie du film où Autumn revient dans sa jungle et retrouve son jaguar a pu démarrer. Donc les jaguars utilisés viennent du Mexique, hein, où s'est déroulé le tournage. Et Gilles de Maistre a récupéré les jaguars bébés des mains des éleveurs mexicains. Le commerce étant légal dans ce pays, légal.
Oui, légal, oui.
Ils ont été pris en charge tout de suite par des coordinateurs animaliers. Et comme il nous dit, le jaguar est menacé de disparition totale, essentiellement à cause de la déforestation. Sur toute l'Amazonie et l'Amérique latine, il ne reste que 15 000 individus à l'état sauvage. C'est très très peu. Et c'est une cause que nous jugeons essentielle de défendre avec Prune auprès du grand public, précise le cinéaste. Donc Gilles de Maistre a tourné dans des zones très civilisées où il y a beaucoup de gens. Comme il est impossible de balader un jaguar à droite et à gauche, le réalisateur et son équipe ont truqué les décors. Et comme il nous dit, on a construit une fausse rivière, une fausse canopée. On a utilisé des fonds bleus pour donner de la dimension qu'on ne peut pas donner dans l'espace où vivait le jaguar. Mais c'est tout. Pour la relation entre l'enfant et l'animal, nous offrons de l'authenticité, de la vérité. Utiliser un faux décor ne me dérange pas, mais mon cinéma implique forcément que le jaguar saute sur Loumi lorsqu'il se retrouve au bout de 3 quarts d'heure de film. On ne peut pas tromper le spectateur.
Ça, c'est chouette.
Voilà, donc il a trouvé un bon compromis entre les deux. Mais comme quoi, quand même, c'est chaud de tourner avec des animaux un petit peu imprévisibles.
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas évident de coordonner tout ça hein, pour la réalisation de ce film. Donc, chapeau.
Chapeau, Gilles Lemaistre. Oui.
C'est une bonne idée, en tout cas, d'avoir fait un sujet là-dessus. Et puis, d'avoir pris de vrais éléments pour le film.
Ouais. Voilà, puis aussi, ça servirait de servir de son film pour sensibiliser un petit peu à la destruction des biotopes. Hein.
Absolument,
oui.
Très important.
C'est important.
Bah donc allez faire un petit tour pour aller voir le dernier jaguar. Hein. Je le rappelle, ça n'a rien à voir avec le film de Jacques Weber, qui est sorti en 1996 avec Jean Reno et Patrick Bruel, d'après mes recherches. On enchaîne avec un autre rendez-vous. Là, c'est un très bon film avec le retour sur les écrans d'Yvan Attal, qui sera notre personnage de cette semaine. C'est un coup de dé que vous allez pouvoir découvrir sur les écrans.
Alors, un coup de dé, oui, le dernier film d'Yvan Attal que nous aurons en sortie nationale, un film français d'1h25, c'est un thriller.
Ouais. Bon, j'ai vu quelques extraits, ouais, c'est ça.
Ouais, le scénario, il est noir.
Très noir.
Et très noir.
Bon, d'accord. Il
fait au niveau des acteurs, évidemment, on va retrouver Yvan Attal, hein, qui est devant, derrière la caméra.
Ouais.
Mai Wen, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, ça fait longtemps. Alma Jodorowsky, Victor Belmondo.
Oui, je suppose que c'est du clan Belmondo.
Et oui, Victor, on en avait parlé une fois.
Ah oui, alors c'est le petit-fils.
Exactement, c'est le petit-fils ouais. De Jean-Paul. Jared Kahn et Olivier Fazio. Donc c'est l'histoire de Mathieu qui doit tout à son ami Vincent, sa maison, son travail et même de lui avoir sauvé la vie il y a 10 ans. Ils forment avec leur compagne un quatuor inséparable et vivent une vie sans nuages sur la Côte d'Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l'épreuve lorsqu'il découvre que Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s'installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâcheté, de mensonges et de culpabilité. Là, on est vraiment dans le scénario des plus noirs qui soient. Donc le scénario d'un coup de dé était prêt avec avant celui des choses humaines en 2021. C'est vrai qu'il a réalisé ce film-là un petit peu avant. Le précédent film réalisé par Yvan Attal. Le cinéaste voulait tourner ce thriller après Mon chien stupide en 2019. Parce qu'il voulait passer à autre chose que la comédie et s'attaquer au film de genre. Il se rappelle. Nous avons donc écrit cette histoire avec ma scénariste Yael Langman. Mais au moment de me lancer dans la préparation, j'ai lu le livre de Karine Thuil. Le sujet m'a alors paru d'une actualité incroyable et je me suis dit qu'il fallait le faire très vite. J'ai donc mis de côté un coup de dé que j'ai repris ensuite avec plaisir. Même si les choses humaines étaient déjà très différentes de ce que j'avais fait avant, un coup de dé est clairement un film de genre et ça, c'était excitant. Donc il est tiré d'un texte d'Eric Assous qui s'appelle Ball Trap, une comédie sur deux copains dont l'un tue accidentellement sa maîtresse. Yvan Attal a trouvé l'idée intéressante et a demandé à l'auteur s'il acceptait de le laisser traiter ce sujet à sa manière. Et comme il nous dit, je suis passé de la comédie au thriller, un genre que j'avais envie d'aborder. Pour le plaisir, même si j'ai évolué plus ou moins dans la comédie, mes films sont tous très différents. Le brio, Mon chien stupide, Les choses humaines, j'avais envie de marquer encore cette différence. Aussi, pour me poser des questions de mise en scène propres à ce genre, donc j'adore être sur un plateau confronté à un texte, une histoire et des personnages. Comment mettre le spectateur dans telle ou telle condition? Là, j'avais envie d'un film haletant, mettre le spectateur en haleine, trouver une forme, me demander comment on tue quelqu'un. Comment filme-t-on un mort ou un accident? Ce sont des choses que je n'avais encore jamais faites et c'était jouissif de se poser de telles questions de mise en scène, raconte le metteur en scène. Alors, il avait quand même pour référence les films de Woody Allen. C'est marrant parce que ça contraste énormément quand même. Ah,
c'est vrai qu'on est un petit peu loin.
Oui. Donc tous les films d'Yvan Attal, tous, sont influencés par le cinéma de Woody Allen.
Alors je ne savais pas ça.
Un coup de dé ne fait pas exception à la règle. Et comme il nous dit, c'est un cinéaste qui parle de lui et qui aborde des histoires qui me parlent à moi. Alors je me suis retourné lorgné de son côté. Un film est apparu comme une référence de ce que j'aimerais faire. Crimes et délits. Qui est un film de Woody Allen, parce que justement ce sont des thèmes qui me touchent, la culpabilité, l'impunité, la lâcheté. Comment pouvons-nous nous accommoder de tout? Car la vie et le temps qui passe prennent toujours le dessus, explique le cinéaste. Alors, évidemment, il y a Maïwenn dedans qui a tourné une scène donc en prison. En prison, elle n'a pas trop aimé. Elle a tourné un film dans une prison et la comédienne confie. C'était un effet assez étrange et pour tout dire, ce n'est pas la journée que j'ai préférée. En arrivant sur place, on entend les bruits ou les voix des détenus, puis on entre, on tourne et on ressort sous le soleil en les laissant derrière nous. Ouais, c'est pas simple ça. Je n'ai d'ailleurs pas voulu me servir de ce que je ressentais à ce moment-là pour jouer mon personnage, qui est alors incarcéré. J'essaye toujours de rester sur le récit, sur le rôle, car dans ma cuisine interne, je me trouvais nul si je faisais autrement. Je ne critique pas celles et ceux qui font, mais ce n'est pas ma méthode de travail. Donc pour Juliette, la femme du personnage d'Yvan Attal et Delphine, celle de Guillaume Canet, Yvan Attal a choisi Marie-Josée Croze et Maïwenn. Le metteur en scène raconte « Avant tout, on fait la liste des gens, en l'occurrence des actrices avec qui on a envie de tourner. Ensuite, on fait le tri. Lesquelles sont justes pour les rôles ? Marie-Josée dégage quelque chose d'assez incroyable face à une caméra. On a envie de la filmer. Son regard à l'écran est fascinant. C'est une comédienne plutôt angoissée qui parvient à vous donner des choses instinctives qui viennent de sa fragilité. » Et cette fragilité convenait parfaitement à celle de Juliette. Alors moi je pense à Marie-Josée Croze, ouais, ça me fait penser à un film, Ne le dis à personne.
Ah oui, c'est bien ça.
Je crois que c'est Guillaume Canet qui l'a fait d'ailleurs, il me semble.
Exactement, ouais. Mm-hmm.
Donc elle était grandiose là-dedans, dans ce rôle-là, j'imagine qu'elle sera excellente dans celui-ci. Quant à Maïwenn, je l'ai choisie car elle peut tout à fait incarner ce dont j'avais besoin pour le rôle. Une vraie violence derrière la beauté. Il fallait que l'on puisse croire que cette femme était capable de tuer la maîtresse de son mari alors qu'elle a tous les codes de l'élégance quand on la croise. Je voulais une comédienne capable de naviguer entre ces deux sentiments, la sophistication et la violence. Voilà. Gros sujet. On dit, je pense que le film va être très bon. Moi, j'ai vu le film annonce. Hein.
Alors voilà, ça me plaît bien. On va aller découvrir ensemble, justement, sur Radio Grand Air, mais ça commence très fort, hein, avec une scène de cascade au début du teasing. Et voilà, je pense que si vous avez envie de rester collé au siège, allez faire un petit tour à la Brèche cette semaine pour aller voir ce nouveau film, Un coup de dé, qu'on découvre ensemble tout de suite par la bande annonce.
Je redéroule le fil. Encore et encore. ai-je pu en arriver là ?
Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver. Mais on vous a proposé de nous rejoindre. C'est que ça l'angoisse, l'avion.
Mais qu'est-ce qui l'angoisse, Paul ? Qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis venu déjeuner avec toi.
Tu veux que je me sente coupable ?
Quitte cette fille. Ça me gêne vis-à-vis de Delphine.
Le grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça ?
Delphine passe pour une conne et toi tu dis rien. Tu cautionnes en fait.
Vincent, c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie.
Tu t'approches encore une fois de mon mari, je te crève les deux yeux ! J'y crois pas une seule seconde, Delphine est incapable de ça. Regarde-moi, tu doutes de moi ?
Non, non !
C'est qui alors ?
C'est à cause de lui. T'étais où ? Tu la connaissais ?
Tu crois pas que tu me dois une explication ?
Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau.
À qui t'as parlé ?
Je ne sais plus qui a dit. L'improbable a toutes les chances de se produire.
C'est ça. Je sais.
Voilà, donc on va...
Film à suspense et tout, ouais, t'as vu, c'est plombant, l'ambiance est super plombée.
Absolument, on est vraiment dedans d'entrée, hein, c'est évident. Donc, on le rappelle, un film signé d'Yvan Attal, et on le retrouvera aussi devant la caméra.
Absolument.
Avec à ses côtés, là aussi, un très bon acteur.
Hein, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze,
bien ce genre de situation,
ouais, ouais, bien sûr.
Voilà, donc à voir cette semaine à La Brèche. Et c'est français, figurez-vous.
Et en sortie nationale.
Et en sortie nationale, en plus.
Et oui.
Allez, on enchaîne avec la suite de notre prochain rendez-vous à La Brèche cette semaine.
On va parler peinture. Un peu plus léger quand même.
Ça,
oui, ouais. Oui, on va parler d'un peintre que je ne connaissais pas du tout.
Ah bon ?
Il s'appelle Bonnard, Pierre.
Pierre Bonnard.
C'est pas mal comme nom pour faire de la peinture.
D'accord, ouais. C'est Bonnard.
Le dernier film de Martin Provost, un film français de 2 heures. Un biopic historique, romance. On va retrouver d'excellents acteurs dedans. On va retrouver Cécile de France, Vincent McCain, Stacy Martin, Anne Greenberg, André Marcon, Grégoire le Prince Ringuet, Hélène Alexandridis, Peter van den Beggen. Donc Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l'énigmatique Marthe qui occupe elle seule presque un tiers de son œuvre. Je ne connaissais pas du tout Pierre Bonnard. Franchement, je suis tombé un petit peu de haut là. Donc après Séraphine, pareil, qui est un film qui parlait aussi d'une peintre fort méconnue. En 2008, Martin Provost a été approché par Pierrette Vernon, la petite nièce de Marthe Bonnard. Elle voulait convaincre le cinéaste de faire un film sur sa grand-tante dont elle sentait qu'on ne mesurait pas assez le rôle fondamental qu'elle avait tenu dans l'œuvre de son mari, Pierre Bonnard. Et comme il nous dit, Marthe en était devenue l'emblème et le fétiche, les représentations de Marthe occupant presque un tiers de son œuvre. Mais elle demeurait aux yeux du grand public une femme trouble et manipulatrice, alors qu'à ceux de Pierrette, Marthe était une femme qui s'était sacrifiée pour que Pierre accomplisse son œuvre. Elle m'a appris aussi que Marthe avait été peintre et elle me montra un de ses tableaux. Je suis frappé par la parenté avec Séraphine. Il s'agissait d'un petit bouquet dans un vase, un vrai primitif moderne. À l'époque, je n'avais aucune envie de refaire un film sur la peinture. Mais j'en ai parlé à Françoise Cloarec, organisé une rencontre avec Pierrette et un livre est né, L'Indolente. Et puis les années sont passées et j'ai fait d'autres films. J'ai oublié Marthe. Mais pendant le confinement, alors que j'étais enfermé chez moi à la campagne, il se trouve que j'habite tout près de la célèbre roulotte. Dans ces mêmes paysages magnifiés par le regard de Bonnard où j'ai pris racine et que la nature, ce printemps-là, était si vibrante de la non-intervention des hommes, l'idée de faire un film sur les Bonnards est revenue me trotter dans la tête. Alors que je feuilletais un ouvrage sur les Nabis et que défilaient sous mes yeux certaines des toiles de Bonnard, mon regard s'arrêta sur le célèbre déjeuner, se rappelle Martin Provost, il ajoute. Alors que je feuilletais un ouvrage sur les Nabis et que défilaient sous mes yeux certaines des toiles de Bonnard, mon regard s'arrêta sur le célèbre déjeuner. Soudain me revint en mémoire qu'enfant ma mère m'en avait rapporté d'une exposition qu'elle était allée voir à Paris, une affiche. Affiche que j'avais punaisée sur le mur de ma chambre de façon à pouvoir le regarder alors que je m'endormais le soir. J'étais trop jeune pour le comprendre, mais quelque chose dans cette image, dans la sensualité, l'étrangeté qui s'en dégageait me fascinait. C'était comme une fenêtre qui s'ouvrait sur un autre monde. Alors, Bonnard-Pierre-Marthe est un projet qui a été compliqué à mettre en œuvre à tout point de vue. Toutefois, Martin Provost pense que ces difficultés ont servi le film. Et comme il nous dit, tout a bougé en permanence. J'ai perdu tous mes chefs de poste, ou presque. J'ai dû couper 15 pages du scénario en pleine préparation. Il a fallu se réinventer tout le temps, aller à l'essentiel. Je crois que cela a contribué à la dimension quasi organique du film, à échapper à la reconstitution historique dans ce qu'elle peut avoir de pesant. Alors, Martin Provost donc, a pris beaucoup de liberté par rapport au parcours de Pierre et Marthe, mais tout en respectant une certaine chronologie des événements et la réalité historique. Et comme il nous dit, c'est impossible d'être entièrement fidèle à des événements qui ont été rapportés par d'autres. Et quand je suis dans mes recherches et que je prends mes notes, je laisse toujours libre cours à mon imagination en faisant tout de suite parler mes personnages. C'est pas les dialogues que je cerne le mieux mes idées. Le déjeuner avec Missia et son nouveau mari Alfred, les Monet et Vuillard, je l'ai inventé bien entendu, mais tout ce qui est dit est vrai. Les Monet et les Bonnard aimaient se rendre les uns chez les autres en bateau. Alice aimait bien faire la cuisine. C'était une femme gaie, ce qui se voit sur certaines photos. Missia était une mondaine, elle connaissait tout Paris. C'est dans sa confrontation avec Marthe que j'arrive à exprimer qu'on ne peut pas cantonner celle-ci à un rôle strictement de muse ou d'égérie. Comme il aurait été trompeur et tout aussi réducteur de la réduire à celui de la victime impuissante dévorée par un génie prédateur, venant cela rejoindre la longue liste des campagnes d'artistes célèbres, objectivées par un regard masculin dans des sociétés encore foncièrement patriarcales. À découvrir la brèche cette semaine, si vous voulez
découvrir les
peintures.
La peinture de ouais. Bonnard. Eh bien, ça sera l'occasion de découvrir ses œuvres. Alors, moi, j'ai vu juste un petit tableau, là, c'est pas mal fait. Hein. Les paysages.
Oui.
Des jolies peintures avec une signature particulière. Un artiste qui mérite d'être découvert.
Redécouvert
hein, pour ceux qui connaissaient un petit peu les œuvres de l'artiste. Tu l'as dit, c'est un biopic, donc l'occasion de partager ce petit moment historique d'une vie d'un artiste, tout simplement. On va enchaîner avec un autre rendez-vous totalement à l'opposé. On va cette fois-ci se mettre en mode frisson. Voilà, tout simplement. Vous aimez les araignées, ça tombe bien. Vous serez servi.
Vous
les aimez pas.
Ouais. Ça tombe bien aussi. Ouais, vous allez être servi.
Ça va être servi. C'est peut-être un bon moyen pour passer à la trouille des araignées.
On est face à quand même un film français d'une heure 45.
Oui, c'est français en plus.
Un film d'épouvante horreur. Interdit au moins de 12 ans.
Ouais.
De Sébastien Vanik. Donc, au niveau des acteurs, on va retrouver donc, Théo, Christine, Sophia Lezaffre, Jérôme Niel, Lisa Ngarco, Finnegan Oldfield, Marie-Philomène Enga, Ike Zaisando Joseph et Emmanuel Bonamy. Alors, le pitch, il est tout simple.
Ouais.
Face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre.
Voilà, c'est simple et on peut ne pas passer à côté.
Le décor est planté. Moi, j'ai vu 2-3 images. Oui, effectivement, ça m'a l'air relativement bien rythmé. Et oui, il ne faut pas être arachnophobe.
Ça me rappelle un film que j'avais vu dans les années 80, 1987, La Veuve Noire.
Ah ouais, moi, je pensais à Rack Attack.
Non mais La Veuve Noire, c'est assez, assez troublant aussi. Les gens se faisaient piquer par une veuve noire. Et on pouvait se
comme Spider-Man.
Ouais.
Comme Spider-Man.
Oui.
C'est une veuve noire, hein, Spider-Man.
Exactement.
Mes souvenirs sont bons. Hein. Oui.
Exactement. Alors Vermine, on va
si vous voulez sursauter ou faire un peu peur, c'est le moment. C'est le moment, faut y aller.
Il y a plein d'araignées.
Il y aura plein d'araignées. Ça c'est promis.
Bon, bah, très bien. Donc, c'est noté pour ce rendez-vous. En plus, c'est français. Hein. Vous ne serez pas déçus. On va parler de Jeunesse, le printemps. C'est la suite des rendez-vous de la semaine.
Alors, pour ce dernier film, on va parler de Jeunesse, donc le printemps. Alors, j'imagine qu'il y aura toutes les saisons.
Ouais.
J'imagine. Hein. Le dernier film de Wang Bing.
Ah oui, ça dure 3 heures.
C'est un documentaire.
34.
Franco-luxembourgeois Pays-Bas de 3h35.
Un documentaire,
oui. Donc Donc ça se passe sur la ville de Xilu, à 150 km de Shanghai. Dans cette cité dédiée à la confection textile, les jeunes affluent de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtze. Ils ont 20 ans, partagent les dortoirs, mangent dans les coursives. Ils travaillent sans relâche pour pouvoir un jour élever un enfant, s'acheter une maison ou monter leur propre atelier. Entre eux, les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales. Oui, c'est vrai. Alors, il casse ce documentaire.
Ouais.
Et alors, moi, j'ai vu le film annonce. C'est comme de l'immersion, si tu veux, dans la vie de ces jeunes travailleurs là. C'est marrant parce que on est vraiment entre le documentaire et la fiction. Mais c'est classé documentaire, hein, et je trouve que c'est bien de porter un petit peu d'éclairage un petit peu sur les conditions de ces gamins qui doivent travailler presque, je sais pas, 18 heures par jour, et faire que ça toute la journée, et puis brûler leur jeunesse aussi dans l'espoir de se payer voilà, une maison ou de fonder une famille, ce qui est très compliqué en Chine, surtout quand tu débutes dans la vie active.
Alors il y a la Chine et d'autres pays, hein, notamment dont les enfants sont victimes du travail forcé.
Il y en a un peu partout dans le monde.
En Inde.
Oh, tu as l'Inde, et puis bien d'autres pays. Mm-hmm. Donc Jeunesse, le printemps, donc c'est la première partie d'une trilogie. Alors en tout, la trilogie a fait 9h30. Alors évidemment, on ne va pas vous les servir.
Là, il faut passer la journée ici.
Voilà,
quoi.
Carrément, ouais. Donc, donc le montage de la deuxième et de la troisième partie est déjà achevé, mais il reste encore du travail, notamment celui de très long, du sous-titrage. Et oui, ça prend du temps.
Ah oui.
Le film entier aura au final l'envergure d'À l'ouest des rails et durera 9h30. Donc la découverte de Zili, alors grâce à des contacts noués avec quelques jeunes pendant le tournage d'Argent amer, Wang Bing a découvert Zili, ville consacrée à la confection textile. C'était la première fois qu'il parcourait vraiment le delta du Yangtze et toutes les régions autour de Shanghai. Désireux de comprendre les spécificités de cette région, il s'est mis à filmer les scènes qui constituent cette première partie de Jeunesse. Et comme il nous dit, mais il y avait beaucoup d'obstacles. Je viens du Nord, je ne connaissais pas leur dialecte. Et nouer des relations était difficile. Tout était différent, la façon de vivre, d'échanger, de communiquer. J'ai compris que d'y tourner en documentaire me demanderait beaucoup plus de temps qu'auparavant. Je me suis donc installé dans la région de Shanghai. Alors c'est par l'entremise d'un ami poète que Wang Bing a pu rencontrer les personnages habitants de Zili, notamment des petits patrons d'atelier. Petit à petit, il est parvenu à circuler plus ou moins librement dans la ville et dans les ateliers. Et le réalisateur confie. Au début, je n'avais même pas réfléchi à la longueur possible du tournage ou du film qui en résulterait. J'avais assez de budget pour travailler pendant 6 mois, mais la densité de ce que je filmais était telle que j'ai continué pendant plusieurs années. Le tournage s'est finalement étendu de 2014 à 2019. Écoute bien, hein, avec combien d'heures de rush? Imagine. 5 ans.
J'aurais pas trouvé. C'est énorme. 5 ans de rush?
Ouais. Donc 4 ans, 5 ans.
Oh.
2600 heures de rush. Et là-dessus, faut que tu fasses ta trilogie. C'est énorme le travail du montage. Il est terrible. Oui,
là, c'est sûr, ça demande du temps. Ouais.
En 2018, Wang Bing a commencé à organiser un peu le matériau et a décidé au printemps 2019 de commencer le montage. Mais le Covid a tout interrompu et ce n'est qu'à son retour à Paris en 2021 qu'il a enfin pu s'y atteler. Et comme il nous dit, si la fabrication de ce film peut sembler très longue, ce n'est pas seulement parce que j'ai beaucoup filmé, mais aussi parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre la mentalité et le mode de vie d'une région qui m'était étrangère. Et oui, la Chine, c'est grand.
Très grand.
C'est très grand. Ouais. J'imagine que oui, il y en a qui parlent les dialectes complètement différents. Ce qui caractérise l'industrie textile de Zili, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur un investissement public de l'État, comme l'explique le réalisateur. Tout est financé par des particuliers qui s'associent et se soutiennent mutuellement. C'est donc une industrie qui puise ses racines dans la population, à la différence des autres industries chinoises. Cela vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse. En général, pour monter une affaire, il faut un capital, un local, des ouvriers, payer des impôts et des taxes administratives. Ce n'est pas le cas à Zili, elle se monte en une journée. Et il ajoute, à Zili, on trouve un exemple d'activité privée qui a pris des proportions considérables, ce qui lui donne une structure sociologique extrêmement intéressante. On retrouve des formes d'organisation primitives comme celles des tribus anciennes. Les relations sociales et économiques qui caractérisent cette société ont parfois un côté archaïque. Donc voilà un petit peu l'énorme travail de Wang Bing, d'immersion déjà dans cette région donc de la Chine pour essayer d'en extraire, on va dire, ça. c'est 2600 heures de rush. C'est énorme.
C'est énorme. Donc ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup d'aller soutenir ce projet.
3h35. Bon, mais c'est de l'immersion dans le monde ouvrier chinois.
Alors tu parlais du Yangtze tout à l'heure, ça me faisait penser à un film qui date des années 50 ou 60.
Oui, Le Rinçage en hiver.
Non, c'était la canyonnière du Yangtze, avec notamment l'acteur qui jouait dans le rôle de Jack Holman sur le fameux bateau américain qui sillonnait le Yangtze. C'était donc Steve McQueen qui était un militaire américain à bord de ce bateau militaire qui sillonnait à l'époque, c'était dans les années 1926. Et on voyait effectivement cette tension, ce climat politique qui rejetait un petit peu les Occidentaux. Et c'est un vieux film.
Il commence à dater celui-là.
Voilà, mais tu parlais du Yangtze, donc ça me faisait penser effectivement le Yangtze, puisqu'on voit dans ce film ce bateau évoluer sur le Yangtze.
Exact. Non, moi je pensais plus au récit de Jean Gabin dans le film d'Henri Verneuil. Avec Belmondo, Jean-Paul Belmondo, donc la Singe en hiver.
Ah oui.
Où il parle de son passé militaire.
D'accord.
Et il était il a navigué sur le Yangtze.
Ah oui, c'est marrant. D'accord.
Voilà, c'est un de mes films préférés d'Henri Verneuil. Je crois que je l'ai vu 20 fois. Il est vraiment très très bien fait, quoi. Il y a vraiment des passages qui sont vraiment à mourir de rire. Et même encore, d'ailleurs. Hein. C'est une hymne à la cuitasse, quoi. C'est ce que je veux dire. Tu te souviens de ce film un petit peu?
Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu une fois il y a très longtemps.
Tu l'as vu une fois?
Ouais, j'ai pas eu l'occasion. J'ai me procuré.
Mais c'est l'histoire, si vous voulez, d'un ancien alcoolique qui est joué par Jean Gabin, qui tient une auberge sur les bords de l'Atlantique, en Normandie, et qui voit débarquer Jean-Paul Belmondo. Qui est un petit peu à la recherche de sa fille, qui est là dans un pensionnat, qui est à côté, quoi. Et l'espace d'une nuit, tout va déraper, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une cuitasse du tonnerre de Brest, et donc, c'est-à-dire, en fait, Jean Gabin, lui, replonge au grand dam de sa femme, qui est complètement déprimée de le voir faire, et Jean-Paul Belmondo qui l'emmène dans son ivresse, et ça va durer une nuit, plusieurs jours, mais surtout une grosse nuit de cuite. Et... franchement, il y a des dialogues dedans qui résonnent encore dans ma mémoire. Tellement ils sont excellents. Ils sont excellents. Et voilà, c'est la magie des films d'Henri Verneuil. Ils sont en noir et blanc.
Classiques.
Oui. Et dans le patelin où était tourné le film, tu as encore les photos du tournage du film qui sont plaquées contre les murs, hein, en disant telle scène a été tournée à tel endroit.
D'accord.
Et la scène énigmatique du singe en hiver, c'est quand Belmondo fait le torero, parce qu'il est torero dans le film. Il est torero. Et vraiment, il est tellement bourré qu'il va torer les voitures à l'entrée du village, tu vois. Ça a été fait sans trucage. Il s'est lourdement blessé, je peux te dire.
Ah oui, c'est vrai que Belmondo était.
Parce que les voitures arrivent à fond la caisse. Arrivent à fond la caisse dans le village, et lui, il était là avec sa veste, et il était là en train de les torer, quoi. Et il a tamponné quand même des bagnoles. Hein. Il s'est blessé, hein. Je crois qu'il a eu une fracture. Enfin, il s'est fêlé, je crois, l'avant-bras. Ou... Donc voilà, le Yangtze, ça me fait penser à ça. Ça ne peut faire. Enfin, moi, ça me fait penser qu'à ça, d'ailleurs. Ouais. Un singe en hiver d'Henri Verneuil, bien sûr.
Pour arriver à Yvan Attal. Hein,
oui, alors, on va faire le gros écart quand même. Hein. On va sortir de lui, alors voilà, c'est pas le même monde.
Un coup de dé. Et Yvan Attal a aussi une belle carrière finalement.
Oui, une grosse carrière, mine de rien. Ouais. Oui, quand même.
On l'a vu dans beaucoup de films. Hein.
Yvan Attal. Alors, en tant que réalisateur, déjà, il a réalisé 10 films. Alors là, il a commencé vraiment dans son métier d'acteur. Hein. Donc, il est acteur, réalisateur, scénariste franco-israélien. Il est né le 4 janvier 1965 à Tel Aviv, ce qui nous fait un jeune homme de 59 ans. Yvan Attal, c'est 39 années de carrière. Écoute bien, 76 films et séries tournées. C'est beaucoup, hein ?
Ouais.
3 prix. En 90, il a eu le César du meilleur jeune espoir masculin pour Un monde sans pitié. En 97, il a eu le prix du court-métrage au film de comédie de l'Alpe d'Huez qui s'appelle I Got a Woman, qui était son premier court-métrage, et c'est ce court-métrage qui va lui mettre le pied à l'étrier de la réalisation. Et en 97, il va recevoir le prix Jean Gabin. Alors, en tant que réalisateur, il a réalisé donc Ma femme est une actrice, avec Charlotte Gainsbourg et Terence Stamp. En 2004, il s'est marié et a eu beaucoup d'enfants, avec toujours Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. En 2008, New York, I Love You, avec Andy Garcia et Rachel Bilson. En 2017, Le Brio, avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil, un film qui a très bien marché d'ailleurs. Récemment, en 2021, Les choses humaines, avec Charles Gainsbourg et Pierre Arditi. Voilà, c'est quelques-uns de ses films qu'il a réalisés. Au niveau de son jeu d'acteur, donc, il a commencé en 1985 dans le film Mauvaise fille de Régis Franc, avec Daniel Gélin et Christian Vadim. En 1997, on le verra dans Portrait chinois de Martine Dugofson avec Jean-Claude Brialy et Roman Bouringer. En 1999, on le verra dans Mes amis de Michel Hazanavicius avec Mathieu Demy et Serge Hazanavicius. En 2001, évidemment, ce sera Ma femme est une actrice. En 2005, L'interprète de Sidney Pollack avec Nicole Kidman et Sean Penn. Oui, il aura une carrière quand même assez internationale. En 2005, Munich.
Ah, très bien.
De
très
bon Steven film. Spielberg avec Daniel Craig et Eric Bana. Ouais. En 2005, Anthony Zimmer, pareil, un film qui a très bien marché, de Jérôme Salle.
Avec Sophie Marceau.
Exactement, et Alban Casterman.
Un très bon film, on va dire, de complot.
Oui. En 2016, Le ciel attendra, de Marie-Cécile Mansion-Char, avec Sandrine Bonner. En 2016, le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, avec Marion Cotillard et Gilles Lelouch. En 2022, un film avec Pierre Arditi, ça dit rien? On en a parlé en
2022,
plus. Un film de Bruno Schisch.
La syndicaliste.
Non, Maestro.
D'accord.
Avec Miu Miu et Pierre Arditi. La syndicaliste, je ne l'ai pas noté ici, par contre.
Ouais, il joué dedans,
il
ouais.
fait partie du. Ouais. Donc voilà quelques films dans lesquels a joué et qu'a réalisé Yvan Attal. Donc je le rappelle, hein, 39 années de carrière, 76 films. C'est beaucoup.
Riff aussi. Moi j'ai bien aimé Riff, sorti en 2011. Très bon film sur la disparition de sa femme. Il est affecté, il est policier, ils prennent la route, ils se fâchent et en fait sa femme disparaît.
D'accord.
Une belle intrigue qui est repassée sur les écrans il n'y a pas si longtemps que ça. Alors Yvan Attal, d'où vient-il?
On va parler de sa biographie. Oui. Que mange-t-il ça? Je ne saurais dire. Donc en tout cas, il a été élève au cours Florent. Après une enfance à Créteil, Yvan Attal débute en 88 sur scène dans la pièce Biloxi Blues de Neil Simon et dans un téléfilm d'Eli Chouraki, Parlez-moi d'amour. Mais c'est sa rencontre avec Éric Rochon qui va lancer sa carrière. Sa première apparition à l'écran en ami squatteur d'Hippolyte et Girardot dans Un monde sans pitié lui vaut en 89 le prix Michel Simon et l'année suivante le César du meilleur espoir masculin. Donc déjà il se fait quand même remarquer très très tôt. Rochon confie à Attal le rôle principal de ses deux films suivants, Aux yeux du monde, qui marque la rencontre du comédien avec celle qui deviendra sa compagne, Charlotte Gainsbourg, et Les Patriotes, un film d'espionnage tourné sur sa terre natale, Israël. Jouant volontiers les héros tourmentés et les mauvais garçons de Cantique de la racaille à Bon Voyage, Yvan Attal, lauréat du prix Jean Gabin en 97, s'illustre aussi dans un registre plus sentimental. Chez Doillon, dans Winterbottom ou Marion Vernoux dans Love. En 97, Yvan Attal passe derrière la caméra avec I Got a Woman, donc tu vois, c'est le court-métrage qu'il a lancé un petit peu dans la réalisation, décrivant avec humour les affres d'un homme qui partage la vie d'une comédienne. Ce sera le point de départ de son premier long en tant que réalisateur, donc le film que j'ai cité tout à l'heure, Ma femme est une actrice, dans lequel il se met en scène aux côtés de sa muse Charlotte Gainsbourg. Après cette comédie pétillante qui reçoit un accueil très chaleureux, il signe en 2004 le plus ambitieux. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Film choral qui réunit notamment autour du couple Attal-Gainsbourg, Alain Chabat et Emmanuel Seigné. Loin d'abandonner sa carrière d'acteur, Yvan Attal semble afficher une prédilection pour les thrillers, comme dans Anthony Zimmer ou Le Serpent. Mais on le retrouve aussi en Serge Klarsfeld pour Le Petit Écran ou encore devant la caméra de ses collègues Nils Harald Strup et Valeria Bruno Tedeschi. Celui qui double Tom Cruise sur plusieurs films côtoie Nicole Kidman dans l'interprète de Sidney Pollack. Dirigé par Steven Spielberg dans Munich, ce fan de cinéma américain des années 70 réalise l'un des segments du film collectif New York, I Love You. Mari trompé dans Partir, amant passionné dans Les Regrets, Yvan Attal campe un homme d'affaires kidnappé dans Rapt de Lucas Bellevaux, un tournage éprouvant et une de ses prestations les plus marquantes. Pourquoi ?
Bonne question, je ne sais pas.
Parce qu'il est obligé de perdre 20 kilos pour le film.
Ah oui, d'accord. Ouais. Effectivement, c'est.
Ben oui, ouais, quand t'es kidnappé, tu manges pas bien. Son goût pour les rôles physiques se confirme dans des films tels que Riff ou dans La Tourmente, sorti en 2012. Cette même année marque également ses retrouvailles avec Lucas Bellevaux dans 38 témoins, la sortie de son premier film de commande. Do Not Disturb, un remake osé de la comédie indépendante américaine Hump Day, dans lequel il partage l'affiche avec François Cluzet. Et son regard et son grand retour au théâtre dans la pièce Race de David Mamet. À l'affiche des Méconnus, donc du film Son épouse et Le dernier diamant, Yvan Attal campe un méchant burlesque dans la lucrative comédie de Daddy Boone, Red Dingue, avant de réaliser Ils sont partout, où il démonte à travers une galerie de personnages truculents les différents clichés à propos des Juifs. Rapidement après, le cinéaste livre son cinquième long métrage, la comédie Le Brio, dans lequel le professeur de droit aux méthodes provocantes, Daniel Auteuil, prépare l'étudiante Camilla Jordana à un concours d'éloquence. Très actif, il signe en 2019 le Loufoque, Mon chien stupide, où il fait à nouveau tourner sa femme et son fils, Ben Attal, tout en s'octroyant le personnage principal, un père de famille blasé. Parallèlement, Yvan Attal prend part à la série de science-fiction Ad Vitam. Et en 2022, il incarne le personnage principal de Maestro, un chef d'orchestre renommé. Pour l'occasion, il donne la réplique donc à Pierre Arditi. Et l'année suivante, il campe un haut placé du nucléaire dans La Syndicaliste.
Oui, on en parlait
tout à l'heure. Et côté série, incarne un escroc dans D'argent et de sang, ainsi que le metteur en scène Raoul Lévy dans Bardo. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur sa carrière qui est loin d'être terminée. Hein. Il ne va pas s'arrêter à 76 créations. Et ben, on lui souhaite bonne chance, Yvan Attal.
Voilà, et je confirme, et
hein,
il est toujours avec Charles Gainsbourg.
Toujours avec Charles Gainsbourg, eh ben, c'est
ouais, j'ai passé un petit coup de fil justement tout à l'heure et il m'a confirmé.
Ouais. Il t'a dit qu'il passe à la radio aussi, non?
Alors, on pourra peut-être l'inviter. Ouais. Dommage. Allez, passe un petit coup de fil. Merci Pascal pour ce très bon moment de cinéma. On se quitte avec un extrait de la BO d'un film aussi classique d'Henri Verneuil. C'est vieux. C'était Peur sur la ville, tout simplement.
Peur sur la ville d'Henri Verneuil. Ah, oui, ah, oui, 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 exact.
C'était le passage où ils sont dans un studio d'enregistrement pour séparer les bandes sonores de l'appel de Minos.
Exact. Oui, voilà, c'est par ce blond là, avec l'œil de verre.
Ah voilà,
avec l'œil de verre. Oui, oui, c'est ça. Ouais, oui, 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 exact.
Et avec Belmondo, donc c'était pour lui rendre hommage.
Ah, c'était Minos. C'est oui, 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 c'est ça. Mais c'était effrayant. Je me rappelle quand j'étais gamin, on avait hyper peur.
Ouais. Avec de bons acteurs dans ce film. Merci Pascal pour ce rendez-vous cinéma sur Radio Grand Air aujourd'hui. On se retrouve très vite pour d'autres événements.
D'autres aventures.
Aventures.
D'autres films, d'autres animations.
Et je pense que l'année va être riche. Oui, d'ailleurs, j'ai un poster à mes côtés. Deuxième partie arrive sur les écrans. Ça, c'est bien. Et puis, on aura aussi des cadeaux à vous offrir.
Absolument.
Le dernier Jaguar.
Ouais.
En format très gros.
XXL. Oui, oui, exact. Il y aura la silhouette. La silhouette du film, alors la silhouette c'est quoi? C'est un grand poster avec, c'est pas un poster, c'est un gros carton avec le décor du film derrière et devant, on va dire, en relief vous avez le jaguar et la petite fille du film, donc voilà, ça sera à gagner effectivement à la radio, et Christophe vous en parlera un peu plus, hein.
Voilà
faut avoir de la place
sur notre page Facebook,
voilà, faut avoir de la place dans votre chambre, et au pire je dirais, si c'est trop grand, vous pouvez le découper. C'est vrai que ce sont des dispositifs qui sont faits pour être mis dans des halls de cinéma, donc ils ont une relativement grande capacité.
Si vous avez un petit fourgon, ça sera pas mal.
Ouais, voilà. Donc voilà, mais sinon c'est une chouette silhouette, hein, franchement, c'est joli. Hein.
Ouais.
Et derrière moi, là.
On est, voilà, on le voit, nous, en chair, en os, et vous le verrez sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook de la radio. Merci à toi, Pascal. Le mot de la fin?
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air, et bien venez découvrir tout ce qu'on a à vous proposer à la brèche, il y a plein de choses. Donc moi je vous dis à très bientôt et passez une excellente semaine cinématographique.
Merci Pascal, à très vite.